Bienvenue à Evergreens by Spuekis, un podcast sur la durabilité, la technologie et l'avenir dans le secteur bancaire et financier. Présenté par Brian Ferrari, voici ses invités.
Je suis Arnaud Duban, je suis directeur de Energy Agence.
Je suis Alex Kougna, je suis conseiller logement à l'agence de Dudelange.
Je suis Michel Marx, je suis team manager de la division pilotage commercial de nos produits pré-crédits.
Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode Evergreens by Spuekis où on va traiter un sujet d'une pertinence élevée. Ça concerne le logement luxembourgeois et un partenariat qu'on a mis en place à la Spuekis avec l'Energy Agence. Et donc, Arnaud, est-ce que tu pourrais nous dire ce que fait l'Energy Agence?
Les conseils qu'on propose sont orientés autour de la transition énergétique, de l'accompagnement à la décarbonation. Donc en termes de services, c'est du conseil de l'étude spéciale pour aider à la décision en fait, à la fois des particuliers et des entreprises.
Mich, il est où le lien entre Spuekis maintenant et Energy Agence? Comment ce partenariat est arrivé en place?
Il faut dire que le partenariat existe depuis longtemps en fait. Donc on avait toujours un simulateur qu'on a utilisé, qui a été mis en place par l'Energy Agence. Et à un moment ou l'autre, on s'est dit on va approfondir le partenariat en faire recours à leur formation. Donc, on a pris un choix de former nos conseillers spécialement dans les travaux d'assainissement énergétique. Et l'idée de l'Energy Coach était née.
Et donc, sur le terrain, Alex, je suppose que ce n'est pas le caissier dans l'agence qui est devenu un Energy Coach. Comment ça se passe?
Non, il est bien question que ce soit les conseillers à logement qui s'occupent de ce métier-là. Et comme le dit Mitch, c'est tout simplement juste pour donner encore un conseil beaucoup plus approfondi, plus sur mesure et d'assister les clients au mieux dans leur projet de rénovation. Et le fait d'avoir fait des formations en relation avec la Energy Agence, ça nous donne aussi une base un petit peu plus approfondie sur les aides disponibles. Et je pense que tout simplement, ce qui est beaucoup apprécié par les clients, c'est tout simplement encore d'avoir des renseignements en plus.
Et donc, en tant que demandeur de ces services, comment ça se passe? Quelqu'un a un logement et il dit « je veux agrandir ». Et puis après, le conseiller en logement, il fait quoi concrètement?
Ce que nous, on constate en agence, en tant que conseiller logement ou même les personal bankers qui font des prêts personnels pour des tout petits travaux, on constate que les clients sont déjà très, très bien informés et que, contrairement à ce qu'on pourrait croire qu'on est la première personne de contact, ce qui peut être le cas, mais souvent les gens, ils ont déjà vraiment des idées très précises, que ça soit au niveau travaux, mais aussi d'avoir déjà pris le contact avec un conseiller en énergie pour vraiment être préparé au maximum et juste encore venir nous voir pour approfondir le volet financier.
Et donc l'Energy Agence nous accompagne dans ce rôle en tant que formateur et aussi de point de relais.
Oui, absolument. Avec l'expérience qu'on a acquise dans les différents domaines de la transition énergétique, on a mis au point un parcours de formation certifiant pour les conseillers logement de la Spuekis, qui aborde plusieurs thématiques en lien avec la transition et la rénovation énergétique. Il y a les aspects techniques qui sont évoqués. Pour bien comprendre, pour que les conseillers aient quand même des notions un peu plus approfondies de quoi on parle quand on parle de rénovation énergétique des bâtiments, d'assainissement énergétique des bâtiments. Donc, on va évoquer aussi bien les performances énergétiques d'isolation, mais on va aussi aborder des sujets en lien avec la production d'énergie renouvelable et la substitution de chaudières, par exemple, par des pompes à chaleur. Donc, tous ces sujets-là, d'un point de vue technique, permettent de faire monter les compétences des conseillers logements. Et puis, on va aussi associer à cette dimension technique une dimension plus financière, puisqu'on a une connaissance assez exhaustive de tous les mécanismes de subvention qui sont aujourd'hui disponibles. Et donc, De cette façon-là, on peut donner un surplus, une valeur ajoutée également, qui est partagée avec les conseillers bancaires. Donc ces deux éléments-là, finalement, font monter en compétence les conseillers logements, qui vont ensuite pouvoir donner des éléments de réponse et construire finalement un dossier qui est plus robuste pour le compte de leurs propres clients.
Donc, en fait, vous nous aidez à renseigner les clients combien d'argent il peut épargner et quelle va être sa consommation énergétique après, c'est ça?
En gros, c'est ça.
Donc, en pratique, on a le client qui vient en agence et puis après, il y a le conseiller logement qui va lui parler de financement et il pourra l'orienter niveau assainissement énergétique et puis après.
En fait, il faut savoir que le client, soit il vient chez nous avec un projet déjà concret, et il a déjà fait ses étapes auprès du conseiller en énergie, ou bien le client vient se renseigner de son enveloppe financière, déjà pour connaître quel est son budget maximum, pour connaître, voilà, moi j'arrive à me permettre un budget X, et du coup, j'essaye de rentrer les différents postes dans ce budget-là. Nous, ayant fait des formations, on a ces notions de base pour le conseil en énergie, des simulateurs disponibles, les aides disponibles. Donc, on peut déjà, dans un premier rendez-vous, aller dans le bon sens, mais pour, dans une deuxième étape, justement, l'envoyer vers un conseiller en énergie qui va être beaucoup plus technique. Il faut quand même pas oublier que nous, on reste le conseiller logement qui va se focusser que sur l'aspect financier et que le conseiller en énergie, il est là pour les détails plus techniques. Donc nous, on va guider le client pour la deuxième étape vers la énergie agence.
Absolument, et c'est là effectivement où il y a la synergie qui se met en place parce que nous sommes à ce moment-là en mesure de prendre le relais par rapport à votre client et de lui apporter la couche de compétences et de connaissances sur le conseil en énergie par rapport à son projet de rénovation où on va, dans ce contexte-là, donc faire une visite du bien pour se rendre compte sur place de l'état du bâtiment et également pouvoir formuler un certain nombre de préconisations sur les types de matériaux d'isolation, les épaisseurs qu'il faut mettre en place, le type de chauffage qu'il faudrait substituer, par quelle puissance, etc. Donc, on va vraiment aborder de façon un peu plus précise ici les éléments techniques de cet assainissement énergétique. Et on va aussi donner des notions chiffrées de l'envergure de ces travaux qui sont vraiment du sur-mesure à ce moment-là.
Donc, chacun reste un peu dans son domaine d'expertise, juste que nous, on fait référence aux experts dans tout ce qui est assainissement.
Absolument, oui.
Et vous êtes aussi dans la capacité de référer de la main-d'œuvre pour faire ces travaux? Ça se passe aussi à travers vous?
Alors, on ne le fait pas aujourd'hui, le référencement vers des artisans, des corps de métier qui sont en mesure d'exécuter les travaux. C'est une réflexion qu'on a en cours. Aujourd'hui, ce n'est pas encore complètement déployé, mais effectivement, ça serait l'étape d'après. C'est-à-dire qu'effectivement, une fois que le projet est bien ficelé, d'un point de vue technique qui fait du sens et d'un point de vue financier avec les financements et les aides d'État qui sont associées, l'étape d'après, c'est effectivement de pouvoir orienter vers des corps de métier qui sont en mesure d'exécuter les travaux de la bonne façon.
Et nous, en tant que Spurkes, est-ce qu'on peut avoir le rôle d'un genre tiers payant qu'on a dans la santé et donc de juste financer le solde après subvention des clients?
On est en train de regarder toutes les pistes, bien entendu. Donc, dès que le tiers payant va venir, bien entendu, nous, on va faire de sorte pour adapter notre conseil sur cette nouvelle situation. Donc, actuellement, c'est pas encore le cas, mais ça va venir dans certains domaines, comme je pense l'installation photovoltaïque, les pompes à chaleur. Donc là, le tiers payant va venir dans les mois à venir. Et je pense que nous, on sera prêt pour faire face à cette nouvelle situation pour tout ce qui est conseil et financement.
Maintenant, ça, c'est des mesures qui ne tombent pas du ciel. Le cadre, je pense, qui donne le ton, c'est le PNEC. Pour la banque, de toute façon, il y a aussi une bonne raison quand même d'aider à cette transition pour les clients privés parce qu'un assainissement du parc immobilier de nos clients est aussi une chose positive, pas que pour les clients, mais aussi pour la banque. Est-ce que quelqu'un a envie d'expliquer ce facteur-là?
Oui, bien entendu, je pense que la transition énergétique, ça, c'est pas seulement pour les ingénieurs et les architectes. Je pense que tout le monde doit faire ses efforts personnel. On parle d'une neutralité climatique jusqu'en 2050 et je pense que la banque peut être un vrai catalyseur, donc quelqu'un qui accélère la transition énergétique sans agir directement sur le terrain. Donc pour expliquer, en fait, en aidant nos clients à faire des transformations énergétiques, à financer les rénovations et tout, donc on met un peu en avant notre part pour vraiment pour accélérer cette transition énergétique. Et je pense pour nous, c'est très important d'agir aussi. Et voilà, c'est pour ça qu'on essaye de faire notre mieux afin d'être aussi une part de comme Transition Enable, d'agir comme ça.
Parce qu'en fait, sur le terrain, est-ce qu'on observe des différences de prix entre des objets qui ont été assainis et des objets qui n'ont pas été assainis?
Oui, on peut réellement constater une différence parce qu'un objet qui est d'une bonne performance énergétique, forcément, il peut peut-être se vendre plus cher parce que le client qui va acheter cette maison n'a peut-être plus nécessairement besoin de faire des gros travaux, contrairement à des maisons qui sont peut-être dans une enveloppe énergétique très faible, l'envergure des travaux va être beaucoup plus conséquent. Évidemment, les clients qui achètent des maisons avec un faible passeport énergétique vont devoir aussi se méfier des coûts d'électricité et ainsi de suite. Et avec les coûts qui ont quand même explosé ces dernières années, les gens s'en rendent beaucoup plus sensibles à ce sujet-là qu'il y a encore quelques années.
Et pour les conseillers, ça doit être sympa aussi d'avoir un peu un changement de décor, non?
C'est-à-dire?
Que pas juste conseiller les clients dans l'octroi du crédit, mais aussi de dire, on peut vous aider dans tel ou tel sens.
Il faut dire que nous, en tant que conseillers de l'HPORCAS, notre but a toujours été de suivre le client dans toutes ces manières, en fait. C'est pas que l'aspect financier, mais il faut pas oublier que financer une maison, c'est un projet de vie pour une famille où on va quand même leur créer un cocon familial et de pouvoir aussi assister à des aides pour rénover leurs biens, pour tout simplement apporter une plus-value à leur acquisition immobilière, de réduire les coûts. Donc c'est vraiment un métier à part entière qui nécessite beaucoup d'expertise et je pense que les clients, ils savent aussi apprécier qu'on fait un conseil sur mesure et c'est ça qui nous distingue aujourd'hui.
Et Arnaud, selon toi, qu'est-ce que tu vois sur le terrain et quels sont les principaux obstacles, si ce n'est techniques ou psychologiques, pour un client finalement d'entamer une rénovation énergétique?
Ce qui manque souvent, en fait, c'est la projection. Quel impact ça va avoir au niveau de ma facture énergétique, de mes consommations? Parce qu'aujourd'hui, spontanément, les gens se disent « oui, je vais changer mes huisseries, oui, je vais isoler ma façade ou ma toiture ». Mais finalement, on n'a pas une simulation assez précise du gain que ça va générer financièrement à la fin du mois ou à la fin de l'année sur la facture énergétique. Donc ça, c'est vraiment l'élément qui est bloquant un petit peu, notamment sur des projets de plus grande envergure où on combine à la fois de l'isolation, mais aussi du remplacement de chauffage et de l'ajout de photovoltaïque ou de l'ajout de bornes pour l'électromobilité. Quand on commence à aller vers des projets qui sont un peu plus complexes, là, la prévisibilité et l'épargne qu'on va pouvoir générer sur sa facture électrique, ce qui n'est pas souvent le cas non plus, des fois ça peut augmenter la facture d'électricité. Quand on change une chaudière au gaz, on ne paye plus de gaz, certes, mais on va payer plus d'électricité. Donc, toutes ces notions-là, elles ne sont pas nécessairement connu dès le départ. Et c'est ça, aujourd'hui, qui est un des éléments bloquants pour certaines personnes dans le cadre de la rénovation, c'est de pouvoir se projeter, de dire « Ok, ma facture de gaz va baisser, mais ma facture d'électricité va augmenter. Je le sais, je prends ma décision en connaissance de cause. »
Comment ça se passe si maintenant on travaille, on est sur un budget plus restreint et on n'a pas envie de mettre le grand effort? Est-ce qu'il y a un rôle ou un ordre primordial qu'il faut suivre, genre je fais d'abord ma façade, puis je fais les fenêtres, ou est-ce qu'il faut prendre tout le package? Comment ça se passe sur le terrain?
Alors ça, c'est un grand débat. Il y a une approche qui dit la première chose à faire, c'est qu'il faut absolument isoler. Parce que quand on isole, eh bien, on a moins besoin de chauffage et donc on va mécaniquement réduire notre besoin de chauffage. L'autre débat, c'est de dire, eh bien, on essaie plutôt de travailler sur la consommation existante et de réduire finalement les pertes par l'ajustement des températures, par le remplacement des systèmes de chauffage, de ventilation, de l'optimisation. Donc ce sont deux approches différentes. Elles se valent, de mon point de vue, les deux. Idéalement, il faut combiner les deux approches, évidemment, pour vraiment gagner en efficacité globalement sur le bien immobilier, ce qui va par la suite se traduire concrètement par une réduction de la consommation, mais également, on parlait tout à l'heure des classes énergétiques des biens immobiliers, on va mécaniquement voir ici une augmentation de la valeur du passeport énergétique qui va gagner en classe d'efficacité. Et de cette façon, ça traduit aussi une plus-value sur le bien à la fin. Donc je dirais, c'est un peu au choix de chacun. Il faut pouvoir prendre la décision en toute connaissance de cause de l'un ou de l'autre approche.
Qu'est-ce que vous observez, vous, dans le réseau? Quelle est un peu la principale demande? Est-ce que c'est les panneaux photovoltaïques, je suppose? Et puis après, on peut faire un upgrade, on dit « j'ai probablement plus de budget parce que je pourcaisse me permet de financer plus, donc je vais encore faire une batterie. » Ou est-ce que c'est plutôt isolation? Quel est le principal produit qui suscite une demande?
Je pense que surtout les installations photovoltaïques, panneaux solaires, ça a vraiment eu un grand hype ces dernières années. Quand vous roulez dans le pays, vous voyez les points rouges, vous êtes sûr que ça va être des panneaux qui vont être installés sur les toitures. Après, je crois que ça change vraiment de personne en personne, parce que vous avez des gens qui ont des vieilles maisons et qui veulent commencer à faire des bons travaux et à savoir que si je veux changer le système chauffage à mettre en place une pompe à chaleur, si j'ai pas la toiture isolée et la façade isolée, ça me sert pas à grand chose de changer les installations de chauffage. Donc il faut vraiment trouver aussi les personnes de confiance, que ça soit les installateurs, les entreprises, qui aussi donnent les bons conseils aux clients pour vraiment prendre les travaux du bon côté, parce que ça sert à rien de vouloir faire quelque chose pour la planète en faisant des améliorations si au final elles servent pas à grand chose. Donc ça, c'est des choses qu'on constate aussi, où les gens, ils ont besoin d'être guidés dans le bon sens pour ne pas investir de l'argent où ça va pas forcément être une aide sur leur facture d'électricité au final.
Et du coup, on a aussi une grande différence entre les différents projets de financement. Donc, on a des choses qui sont dans la mesure d'un prêt personnel et d'autres qui sont plutôt d'un prêt logement. Comment ça se passe? Il y aura un flat crédit qui est octroyé, ou est-ce qu'on fait la différence aussi sur ces sujets-là?
On a en fait deux différentes possibilités. Donc, le prêt classique logement, donc que tout le monde connaît, qui a fait un financement pour un bien immobilier. Mais on a la possibilité de faire un éco-prêt. Donc l'éco-prêt, il a été vraiment fait pour les entre guillemets petits travaux énergétiques. Donc si je veux remplacer mon chauffage, si je veux faire des petits travaux au niveau façade, toiture, par exemple si je dépasse pas les 100 000 euros, donc là on a fait un prêt qui est vraiment au niveau taux super intéressant, qu'on peut mettre sans inscription hypothécaire, donc sans frais supplémentaires, ce qui est un point qui est très très important, mais bien entendu il ne peut pas, c'est un prêt à la consommation, finalement il ne peut pas dépasser les 100 000 euros, mais néanmoins on a une possibilité si quelqu'un veut faire des petits travaux, respectivement un petit changement, sans devoir faire toute la procédure d'un prêt immobilier traditionnel classique.
Et l'avantage aussi de cet éco-prêt, c'est qu'il peut être fait sur une durée de 10 ans. Donc souvent, on a des clients qui pensent devoir faire le prêt sous forme d'un prêt immobilier avec une inscription hypothécaire sur leur maison. Mais quand on constate que la capacité financière le permet d'avoir une durée un peu plus restreinte, un éco-prêt peut forcément être une très bonne alternative pour le client.
Donc ça donne une flexibilité additionnelle, quoi.
Exactement. Donc, on propose effectivement plusieurs solutions et qu'on doit discuter avec le client pour voir quelle est finalement l'adaptation, le plan de financement le mieux adapté en fonction du client.
Au niveau financement, si je peux ajouter, peut-être un peu un autre sujet, mais c'est on date aujourd'hui, il y a l'État qui passe vraiment via les incitations pour faire les travaux énergétiques. Mais nous, on fait un peu pareil, parce que si on fait des travaux énergétiques, on fait le financement via H4Case, on a la possibilité d'avoir l'éco-bonus. Donc, si par exemple, j'ai fait les travaux, j'ai fait des améliorations sur le passeport énergétique, vous avez la possibilité d'avoir une rémunération supplémentaire via votre banque. Et je pense que ça, c'est aussi un sujet qui est quand même, qui est excellent afin de montrer qu'on veut vraiment soutenir la transition énergétique et de soutenir les clients dans ces démarches.
Est-ce que tu veux nous donner des précisions sur l'éco-bonus, en quoi ça consiste et...
Comme on vient de t'entendre, donc dès que les clients sont passés via un conseil en énergie, donc comme on vient de dire, finalement pour nous c'est important qu'il revienne chez nous, qu'il nous montre le passeport énergétique, et s'il a fait une amélioration sur le passeport énergétique, je peux revenir sur notre éco-bonus. Donc, à ce moment-là, il a la possibilité d'avoir une subvention supplémentaire. Et je pense que ça, c'est tout ce système qui, s'il fait un peu le tour, s'il s'informe bien le client, je pense que ça vaut vraiment le coup de passer via la banque, via l'énergie agence, et puis revoir avec la banque ce qu'on a fait, de mettre le dossier à jour et profiter de l'éco-bonus finalement.
Ouais, donc finalement, on offre un point d'entrée, un point de contact, et puis on peut référer aux experts, et comme ça, le client il est accompagné, il ne se trouve pas seul dans cette jungle qui est réglementaire, subside, financement, donc all in one package.
C'est ça, et surtout ce qui est important aussi, c'est que c'est vraiment du sur-mesure. C'est-à-dire que il existe effectivement tout un tas d'outils qui sont mis à disposition gratuitement, qui sont des outils génériques, notamment proposés par la Climat Agence. Mais lorsqu'il y a ce conseil sur mesure qui est proposé, à ce moment-là, on va vraiment étudier individuellement la configuration et l'optimisation de chaque cas personnel.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour augmenter un peu l'attrait ou la demande pour ce genre de rénovation ? Parce que, je sais pas, on traverse les rues, on voit quand même, tu dis, on voit les points et on peut assumer que c'est les panneaux photovoltaïques, mais qu'est-ce qui manque pour que ça soit encore plus fluide, plus facile ? Si on entend qu'il y a tellement de gens qui ont des problèmes à aborder un nouveau logement, ça devrait quand même être aller de soi que les rénovations, ça prenne le dessus. Donc, qu'est-ce qui freine un peu ? Selon votre avis. Donc,
Moi, je dirais ce qu'on a dit avant, le fait de parler du tiers payant. Je pense que si, au lieu que le client a besoin d'un financement à 100% pour effectuer les travaux, si les aides dont le client a le droit pourraient être déduites directement, que ce soit de la part de l'État ou que les entreprises vont peut-être récupérer les aides, ça pourrait forcément inciter les gens à être plus optimistes d'engager des travaux parce que forcément, ils auront un budget qui sera connu dès le départ.
Puis on peut ajouter, on revient à ce qu'on a déjà dit, mais l'Energy Coach qu'on a mis en place, c'est le pour battre un peu ou pour pousser un peu les gens à faire le pas pour s'informer qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça va me coûter, qu'est-ce que ça va me rapporter. Parce que je pense aujourd'hui, le client, il pense plutôt que c'est oui, l'envergure est trop grande et on fait pas le premier pas. Et il faut inciter les gens à faire le premier pas. Et je pense qu'il faut passer par son conseiller banque et demander qu'est-ce que ça pourrait me coûter, est-ce que j'arrive à le payer. On a la possibilité de simuler ce que ça coûte plus ou moins, ce que ça rapporte plus ou moins, ce que ça rapporte sur la classe énergétique. Et si on arrive à chiffrer ces travaux et que le client il voit que c'est en principe que c'est faisable pour lui pour les faire, on va le guider chez un conseiller en énergie afin de concrétiser son projet. Et je pense qu'il faut juste oser de faire le premier pas de s'informer, soit directement chez le conseiller en énergie ou bien via son banquier qui pourrait lui faire les calculs nécessaires afin de donner le premier petit pouce.
Je suppose qu'une certaine certitude réglementaire, ça serait aussi dans l'intérêt de l'activité pour vous ?
C'est vrai qu'en ce moment, la réglementation évolue très vite. Ce n'est pas toujours évident de la suivre, notamment en matière de subsides, en matière de critères d'éligibilité. On parlait du tiers payant, ça fait longtemps qu'on en attend que ça soit mis en place. Donc il y a aussi beaucoup d'effets d'annonce qui ont été faits et qui prennent un petit peu de temps à se formaliser. Donc tout ça, ce n'est pas non plus des éléments facilitateurs pour vraiment accélérer l'activité sur le volet rénovation énergétique. Je pense qu'à partir du moment où il y a des annonces qui sont faites, il faut pouvoir les mettre en œuvre le plus rapidement possible pour éviter l'incertitude liée à ces évolutions réglementaires.
Quels sont les pain points que vous observez dans les agences après que vous avez donné le conseil aux clients de faire une rénovation? Est-ce qu'il vous revient avec des feedbacks? Quels sont les ressentis du marché? Est-ce que tout est sans problème une fois que vous avez octroyé le crédit?
Je crois qu'on est un petit peu hors scope parce que c'est pas nous qui allons payer les aides finalement. Et les subsides. Donc, c'est pas nécessairement nous qui vont être la première personne de contact pour voir si ça s'est finalement passé comme ils espéraient. Nous, on restera quand même toujours l'interlocuteur financier pour voir si le financement est réalisable ou pas et si le client a les capacités de faire un projet d'une certaine envergure. Mais au niveau après, si ça se passe bien ou pas, vu qu'on n'a pas forcément un retour direct du client, j'estime que ça devrait être bon.
Donc, il n'y a pas d'écho qu'il y a des difficultés de trouver de la main-d'œuvre ou les prestataires de services. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on ressent dans l'agence.
Ah, ça dépend des travaux. Si c'est des travaux d'une grande envergure, les entreprises sont peut-être aussi plus favorables à se déplacer pour faire des devis et de faire une estimation des coûts. Après, si c'est pour des petits travaux, soit c'est des entreprises qui ont connu comme les installations photovoltaïques ou les panneaux solaires, il y a eu un hype très élevé vu que les aides devaient se couper. Donc les gens, ils ont forcé à avoir rapidement encore les devis et les entreprises, forcément, ils ont été un peu envahis par les gens qui étaient forcément intéressés d'en profiter encore jusqu'à la dernière minute.
C'est quand même, j'ai l'impression qu'on n'est quand même pas sur la bonne voie en toujours étant dépendant de ces subsides, parce que ça devrait quand même être sur le long terme, le calcul se fait même sans les subsides. Est-ce qu'on risque un jour de dire on arrête les subsides et puis l'activité ça plonge complètement? Est-ce qu'il ne faudrait pas éduquer plus les gens encore? J'aime bien donner l'exemple du Texas, qui est un pays, un État qui est connu pour ses forages de pétrole. Mais maintenant, c'est les plus avides aussi pour mettre des éoliennes et du photovoltaïque parce que c'est de l'énergie qui est gratuite. Donc, si même les Américains, dans un État qui est républicain et qui ne veut pas de vert, le terme d'énergie verte, c'est maudit là-bas, mais ils comprennent l'aspect économique du sujet. Donc, pourquoi c'est tellement difficile dans nos régions de dire aux clients que même sans les subsides, sur le long terme, c'est hyper intéressant?
Non, je confirme que l'éducation devrait venir d'un autre côté. Parce qu'on constate réellement que les subsides, c'est la motivation pour les gens pour faire les travaux, parce qu'ils vont avoir un gain direct. Et comme il dit, c'est pas forcément parce que le gain sur, par exemple, la valorisation de son bien immobilier, on le connaîtra qu'une fois qu'on va revendre le bien. Mais quelqu'un qui décide aujourd'hui de rénover son bien, c'est pas forcément dans l'optique de revendre le lendemain. Donc, c'est vrai que, surtout les panneaux solaires, installations photovoltaïques, je pense que si les aides étaient supprimées, qu'il y aurait moins de demandes. Et ça, c'est un peu dommage.
Tout à fait d'accord. Non, je suis tout à fait d'accord. Je pense que ça, c'est toujours aussi la question du prix de l'énergie. Combien est-ce qu'on va réellement épargner en consommation en énergie si je fais ces travaux? Donc, il faut bien le calculer. Il faut bien montrer que ça a un impact positif à long terme. Et je pense que c'est pour ça, c'est correct de parler de l'éducation et il faut éduquer les gens que. Voilà qu'à long terme, ça, c'est rentable et on parle toujours que des transformations ou des assainissements énergétiques, mais il faut aussi savoir si je refais ma façade, si je refais le toit, comment je vis dans la maison, ça change aussi. Donc, il y a une maison rénovée et c'est aussi le confort qui va compter. Donc, en fait, on lie confort, la rénovation avec l'assainissement énergétique, avec les transformations énergétiques. Et je pense qu'il faut, voilà, il faut bien montrer que c'est à long terme que c'est rentable et que ça donne du sens au moins de s'informer. Et puis, il faut faire le calcul. Mais je pense que le calcul, il peut être positif. Même sans les aides, il pourrait l'être.
Parce que nous, en tant que banque, on aime bien soutenir cette activité parce qu'on a aussi un intérêt, parce que notre livre de crédit, si jamais les gens font l'assainissement, la valorisation du bien immobilier augmente. Et donc, du coup, nous, en tant que banque, on court moins de risques. Et donc, en fait, c'est une situation win-win. On a le climat qui gagne, et on a la banque qui gagne et on a les clients qui payent moins de factures. Donc, je sais pas, ça me paraît un no-brainer de faire ce qu'il faut faire, mais je suppose que les obstacles sur le terrain sont évidemment là.
Oui, je suis tout à fait d'accord et je pense que c'est un peu pour revenir à ce que j'ai dit tout au début, si on parle vraiment de transition énergétique et que tout le monde est d'accord qu'il faut faire quelque chose, nous on fait les financements aujourd'hui sur 30 ans, sur 25 ans, 30 ans, 35 ans et 2050 c'est dans 25 ans. Donc il faut faire les financements aujourd'hui vont définir la transition énergétique sur les années à venir. Donc il faut réagir aujourd'hui et il faut faire le nécessaire. Donc je pense que oui, ça serait une win-win-win si tout le monde serait bien informé, bien éduqué et que tout le monde prend ses responsabilités et voilà, au moins pour s'informer calculer si ça donne du sens pour son propre compte ou pas.
Et donc, comment vous voyez les prochaines évolutions? Quels sont les prochains steps dans tout ce domaine de rénovation énergétique? Est-ce que, vu que les nouveaux bâtiments sont déjà à un certain niveau, la demande pour ça va baisser? Ou est-ce qu'on peut déjà prévoir un peu comment ça va évoluer?
La demande va faire qu'augmenter. Le stock de bâtiments existants est plus important que les bâtiments neufs, avec des classes énergétiques qui sont moins bonnes que ce que la réglementation impose dorénavant. Donc forcément, la tendance va aller vers un volume d'activité en matière de rénovation et d'assainissement énergétique des bâtiments. La demande va aller qu'en croissant. Donc c'est important d'avoir des relais au niveau du secteur bancaire pour pouvoir informer aussi, parce que cette rénovation va forcément nécessiter du financement. Et donc, les perspectives sont ici très, très intéressantes. Et l'effet de démultiplication et donc de monter en compétences et pouvoir faire véhiculer les messages auprès des personnes qui vont elles-mêmes faire donc ces rénovations est super important. Donc, en fait, il faut jouer à fond cette carte de l'effet démultiplicateur par l'intermédiaire des conseillers bancaires qui peuvent toucher, qui ont un reach finalement plus important que une simple énergie agence tout seul dans son coin. Donc c'était cette approche là est vraiment intéressante parce que la demande va augmenter forcément, donc il faut pouvoir y répondre de façon la plus pertinente et la plus adaptée possible également en combinant l'expertise financière et l'expertise technique.
Moi, je peux confirmer que l'existence, ça va toujours jouer un grand rôle et d'autant plus qu'on constate aujourd'hui avec la relance, on essaye de faire relancer le marché immobilier. On voit que les VFA, les ventes qui sont en train d'être construites, que ça augmente pas si vite et qu'on a actuellement beaucoup de problèmes. Donc, l'existence, je pense que ça va jouer de plus en plus un rôle important et donc dans les années à venir. Donc, je pense que oui, la question de travaux énergétiques, de rénovation, que ça va rester dans l'actualité encore dans les années à venir.
Donc oui, on assiste nos clients dans ces temps où il y a beaucoup de choses qui changent et on essaie de se positionner aussi pour les accompagner selon leurs besoins spécifiques.
Non, on est aussi dans une période qui change. On est dans un grand changement climatique. C'est quand même des sujets qui reviennent régulièrement, voire tous les jours. Donc les gens, ils commencent quand même à avoir une sensibilité envers ce sujet-là. Et que faire d'autre que de rénover pour justement aussi respecter les normes qui sont imposées ou qui vont être imposées au futur. Et je pense que les normes, elles vont toujours évoluer. Et du coup, tout le monde va être obligé aussi de s'adapter à ces normes et de pas seulement regarder sur le portefeuille, mais aussi sur son propre confort. Comme le disait Mich avant, quand on fait des rénovations, on a aussi un confort qui va s'installer dans sa propre habitation. Donc, c'est aussi ça qui... Et je pense que tout le monde a envie d'être dans une maison qui lui plaît, qui a un confort. Et si ça peut amener à améliorer notre monde, je pense que tout le monde va aller dans ce sens.
Evergreens by Spurkiss. Restez à jour avec tous les épisodes en vous abonnant à notre podcast.